Imaginez un peu. On est dans les années 80 et il y a des ordinateurs qui coûtent une fortune, des centaines de milliers de dollars, hein, et qui sont faits pour un seul langage de programmation, un langage pour l'intelligence artificielle.
Oui, une époque assez incroyable et ces machines, elles ont eu leur heure de gloire avant de disparaître assez vite finalement.
C'est ça. Et aujourd'hui, justement, on va explorer cette histoire, l'histoire de Lisp et des fameuses machines Lisp, un langage qui est né vraiment avec l'IA. Enfin, l'IA de l'époque, bien avant celle qu'on connaît maintenant.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve encore des traces très concrètes aujourd'hui.
Oui, notamment pour ceux qui utilisent des logiciels de conception assistée par ordinateur, la CAO, parce qu'il y a AutoLisp dans AutoCAD qui en descend directement.
Exactement.
Alors, racontez-nous un peu. Comment ça a démarré, cette histoire de Lisp et de ces machines
Alors, tout commence à la fin des années 50. Lisp, ça veut dire « List Processing ». Traitement de liste. C'est John McCarthy qui l'a créé.
Pourquoi ? Il y avait déjà des langages comme Fortran, non ?
Oui, mais McCarthy et d'autres chercheurs comme Simon et Newell trouvaient que Fortran n'était pas adapté pour l'IA telle qu'ils la concevaient à l'époque. Eux, ils voyaient l'intelligence comme de la manipulation de symboles. L'IA symbolique, quoi.
D'accord, la manipulation de symboles. Et Lisp était meilleur pour ça ?
Ben oui, sa philosophie de base, c'est que tout est une liste. Le code, les données, tout.
Tout est liste.
Voilà. Et ça donne une flexibilité assez dingue, surtout pour ce qu'on appelle la métaprogrammation.
La métaprogrammation, c'est-à-dire ?
C'est l'idée, en gros, qu'un programme peut manipuler ou même écrire d'autres programmes, très puissants pour modéliser des raisonnements complexes.
Ah oui, je vois. Mais j'imagine que ça devait demander pas mal de ressources.
Exactement. C'était très, très gourmand en mémoire et en puissance de calcul pour les ordinateurs de l'époque.
Et c'est là que les problèmes commencent, j'imagine. Les machines existantes, les PDP-10 par exemple, elles avaient du mal.
C'est ça, elles peinaient, surtout avec la gestion de la mémoire. Le fameux ramasse-miettes, le garbage collector qui doit nettoyer ce qui n'est plus utilisé, ça prenait un temps fou.
Donc les chercheurs, notamment au MIT AI Lab, ils en ont eu marre.
Ben oui, ils étaient financés en partie par la DARPA d'ailleurs, et ils trouvaient ces machines partagées trop lentes. Du coup, sous l'impulsion de Richard Greenblatt, dès 1973...
Ils ont décidé de faire leur propre ordinateur. Un peu fou, non ?
Carrément. Ils ont conçu la machine Lisp, des machines comme la Cant ou la Cadre, des noms qui sont des fonctions de base de Lisp, d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'elles avaient de spécial, ces machines ?
Une architecture matérielle optimisée pour Lisp. Par exemple, l'architecture taguée.
Taguée ?
Taguée, oui. Chaque donnée en mémoire avait une petite étiquette, un tag, qui disait son type. Ça accélérait énormément les opérations dynamiques de Lisp. Et tout le système d'exploitation était écrit en Lisp.
Ah ouais, carrément. Un environnement complet.
Considéré par certains comme le meilleur environnement de développement jamais créé. Très cohérent, très puissant.
Et ça a marché ? Commercialement, je veux dire.
Oui, dans les années 80, il y a eu un vrai boom. C'était l'époque des systèmes experts.
Ah oui, les systèmes experts. Cette première vague d'IA qui devait capturer le savoir des spécialistes.
C'est ça. Comme Prospector en géologie, qui a vraiment aidé à trouver un gisement. Ou des systèmes d'aide au diagnostic médical. Du coup, des boîtes comme Symbolix et LMI.
Lisp Machines Incorporated.
Voilà. Elles se sont lancées pour vendre ces machines. Performantes, mais très chères.
Mais ça n'a pas duré, cet âge d'or. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'engouement est retombé ?
Plusieurs choses, en fait. Déjà, les systèmes experts, ça s'est avéré plus compliqué que prévu. Coder la connaissance tacite des experts, le savoir-faire, difficile à expliquer, c'était un vrai défi.
Et puis, Lisp lui-même, peut-être ?
Oui, Lisp, malgré son élégance, n'a jamais vraiment percé dans l'industrie face au langage C, qui montait en puissance avec Unix. C était plus simple, plus passe-partout.
Et le matériel a aussi joué un rôle clé, j'imagine ?
Ah oui, ça a été le coup de grâce. L'arrivée des stations de travail Unix.
Celle de Sun Microsystems, Apollo...
Exactement. Elle devenait de plus en plus puissante grâce aux puces Intel, Motorola, la loi de Moore, quoi. Et surtout, elles étaient beaucoup moins chères.
Et elles arrivaient à faire tourner Lisp de manière acceptable.
Suffisamment bien, oui. Du coup, les machines Lisp dédiées, très chères, perdaient leur avantage décisif. L'écosystème Unix, beaucoup plus large, a fait le reste.
Et donc faillite pour Symbolix, LMI, au début des années 90. Fin de l'aventure.
Une fin assez rapide, effectivement, pour une technologie aussi avancée.
Donc si on résume, Lisp, né pour l'IA symbolique, a poussé à créer des machines incroyables, a connu un pic, puis un déclin rapide face à du matériel plus standard, moins cher.
C'est une bonne synthèse. Ça montre à quelle vitesse une solution matérielle, spécialisée, même supérieure, peut devenir obsolète face à une technologie assez bonne, mais plus économique et généraliste.
Mais Lisp n'est pas mort pour autant.
Ah non, pas du tout. Son héritage est énorme. Beaucoup de concepts de Lisp, comme le ramasse-miette, on les retrouve partout aujourd'hui. Et Lisp lui-même est toujours utilisé. C'est le deuxième plus vieux langage de haut niveau encore en vie, après Fortran.
Et pour revenir à nos utilisateurs de CAO.
Ben oui, l'héritage est très direct, avec des langages comme AutoLisp dans AutoCAD. C'est une partie de cette flexibilité, de cette puissance de Lisp qui est mise entre les mains des dessinateurs, des ingénieurs.
C'est une filiation assez méconnue, mais bien réelle et utile au quotidien pour beaucoup de monde.
Tout à fait. Une trace très concrète.
Et pour conclure, cette histoire, elle fait quand même réfléchir aujourd'hui, non ? On est en plein dans une nouvelle vague de matériel très spécialisé pour l'IA, les puces pour réseaux de neurones, etc.
Effectivement.
Est-ce que l'histoire des machines Lisp, ce cycle d'innovation très pointue puis d'obsolescence face aux généralistes, ne pourrait pas nous apprendre quelque chose ? C'est une question à méditer, je trouve.